Lille Info, donc le magazine dédié à l'Université Lille. Et nous accueillons aujourd'hui Sylviane Villain pour nous présenter les modalités d'inscription des étudiants à l'Université Lille. Sylviane Villain, bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on va parler de ces inscriptions. Comment ça se passe exactement? Il y a beaucoup de choses qui se font en ligne maintenant.
Oui, tout à fait. On est dans une année un petit peu charnière cette année, puisque l'outil d'inscription en ligne existait déjà depuis ces dernières années pour les étudiants de Lille 1 qui se réinscrivaient. Et donc on étend cette possibilité à partir de la rentrée qui vient aux primo-inscrits, hein, donc quel que soit le niveau d'études et quel que soit le statut, j'ai envie de dire, de l'étudiant, hein, puisque ça va permettre aussi notamment aux étudiants internationaux de pouvoir passer par cette procédure. Hein, donc,
L'idée, c'est de faciliter les choses?
Alors l'idée, c'est à la fois de faciliter les choses à l'étudiant, puisqu'effectivement, il est plus facile, plus agréable, on va dire aussi, de remplir un dossier en ligne avec l'aide des menus déroulants qui sont proposés, que de se perdre dans des fiches de code interminables. Alors même s'il y a une assistance humaine, ça prend toujours beaucoup de temps, c'est un petit peu énervant, on a l'impression qu'on perd beaucoup de temps. Et voilà, on espère aussi que les choses se fassent plus facilement. Donc on a mis un certain nombre de choses en place, en dehors de l'application stricto sensu et des différentes rubriques à compléter, on a mis en place un certain nombre de choses pour faciliter cette saisie.
Alors, quand on dit faciliter, parfois ça peut aussi surprendre. Il peut y avoir des moments où on a des doutes. Est-ce qu'on peut revenir sur quelque chose qui a été écrit via Internet?
Tout à fait. Donc l'étudiant a la possibilité de modifier en cours de saisie s'il n'a pas encore fini de terminer sa validation de dossier. Et il a la possibilité, même une fois la validation de ce dossier faite, hein, une fois qu'il a mis le dernier clic, on va dire, sur l'application, il a la possibilité de se reconnecter sur l'application avec les codes d'accès qu'il a ou qui lui ont été donnés au moment de la première connexion, de façon à pouvoir modifier son dossier. Donc ça, il peut le faire tant que l'administration, enfin les services d'inscription, n'ont pas validé son dossier. Et ça, il a le moyen de le savoir. Ouais, je l'expliquerai tout à l'heure.
Non. Pour réaliser ce dossier, je suppose que l'étudiant doit répondre à un certain nombre de questions dont il a peut-être besoin des éléments sous les yeux quand il écrit les choses sur Internet.
Tout à fait. Donc on lui précise sur la page d'accueil de cette application les éléments dont il va avoir besoin pendant sa saisie de dossier. Ce qui vont des choses un petit peu différentes selon sa situation, selon qu'il est en réinscription ou en première inscription. Et notamment des moyens de paiement s'ils souhaitent payer par exemple en carte bleue en ligne, ça c'est une possibilité qui est offerte par l'application. Son numéro d'identifiant national, ce qu'on appelle l'INE, hein, qui est détenu par tous les jeunes français. Hein, donc c'est un numéro qui est donné pendant les années de lycée, hein, et donc qui sont disponibles sur les relevés de baccalauréat dès le bac français. Et puis, donc pour les étudiants qui n'ont pas ce fameux identifiant national, je pense notamment aux étudiants étrangers, hein, qui, bien sûr, ayant commencé leur cursus dans un pays étranger, ne sont pas destinataires de ce numéro, qui ne concerne que la France. Eh bien, il y a une possibilité en ligne, donc, de faire une demande d'INE. Hein, et donc on va rechercher si cet étudiant est bien connu déjà de l'établissement, hein, même s'il n'a pas encore de numéro. Et donc l'application génère automatiquement un INE qui va devenir définitif lorsque l'inscription aura été validée, ainsi qu'un numéro de code d'accès qui va lui permettre de continuer la saisie.
Donc question certainement stupide, mais tout ce qui est écrit est en français ?
Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, pour l'instant, tout le dossier est en langue française, hein, y compris les mini-questionnaires que l'on peut faire pour déterminer la situation de l'étudiant sans INE, par exemple. On s'est posé la question, effectivement, d'une traduction au moins en langue anglaise, ce qu'on n'a pour l'instant pas souhaité faire, parce que c'est vrai que pour les étudiants d'origine étrangère, on leur demande quand même, au moment de la validation d'études dans le parcours précédent, de maîtriser un minimum la langue française. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a du jargon administratif qui n'est pas forcément très facile à appréhender, pour les étudiants français d'ailleurs tout autant. Voilà, donc il y a des bulles d'information à un moment donné hein, qui sont soit à l'initiative de l'étudiant s'il se trouve en difficulté pendant la saisie qu'il peut ouvrir ou à certains moments dans les rubriques des informations qui s'affichent automatiquement en fonction des choix qu'il a pu faire dans les menus déroulants.
Donc pour les étudiants français, ça va a priori. Pour les autres, on peut leur conseiller éventuellement d'avoir quelqu'un à côté d'eux qui peut les guider.
Oui, éventuellement, s'ils peuvent se faire aider, ça ira sans doute mieux. Et donc, ils peuvent aussi nous solliciter pendant tout le temps de la saisie, puisque sur toutes les pages d'écran, en fait, ils ont la possibilité de nous envoyer un mail. Hein. On a beaucoup renforcé dans le dispositif de fonctionnement du centre, enfin, on appelle ça le centre de traitement des informations, enfin, des inscriptions administratives. En fait, c'est toute l'équipe qui est chargée hein, d'analyser les dossiers et puis donc de les traiter, de les valider si on a tout ce qu'il faut dans le dossier. Ils ont la possibilité de nous envoyer un mail sur chaque page d'écran. Hein. C'est-à-dire que s'ils butent, s'ils n'ont pas... Il y a une foire aux questions aussi hein, qui est en cours de construction et qui va aussi s'afficher sur toutes les pages d'écran. Donc bon, on espère quand même qu'ils vont avoir la curiosité d'aller lire dans les différentes rubriques s'ils ne trouvent pas déjà la question, enfin la réponse à la question qu'ils se posent. Et puis ben, malgré tout, si avec la foire aux questions, les bulles d'information, ça ne suffit pas, ils peuvent nous envoyer un mail et expliciter où est le problème. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce qu'ils ne comprennent pas la question qui est posée tout simplement? Ou que dans le choix qui leur est proposé dans le menu déroulement, ils se posent des questions en disant qu'est-ce que je dois choisir là-dedans? J'hésite entre deux réponses éventuellement. Et voilà quelle est ma situation. Donc ça, on a renforcé l'équipe de façon à pouvoir répondre le plus rapidement possible par voie téléphonique et par le biais de la messagerie dédiée aux inscriptions, à toutes ces questions-là, en fait.
Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les questions par mail ?
Beaucoup de questions sur le paiement de la cotisation sécurité sociale, hein, qui est un problème pour beaucoup d'étudiants, parce que c'est vrai qu'il y a quelques cas où cette cotisation n'est pas due et que voilà, il y a des règles du jeu un petit peu pointues, on va dire, notamment, je pense aux étudiants salariés. Il y a des conditions très particulières pour pouvoir être considéré comme salarié au niveau de la sécurité sociale et donc pouvoir être exonéré par voie de conséquence de la cotisation étudiante. Hein, donc on a énormément de questions là-dessus. Et puis par voie téléphonique ou par les réseaux sociaux aussi, hein, puisqu'on a beaucoup travaillé avec le service communication cette année pour préparer cette prochaine campagne d'inscription. Et il y a eu énormément de questions de la part des étudiants étrangers, notamment au mois de juillet, qui se posent des questions en disant j'ai fait ou j'ai pas fait un certain nombre de démarches, qu'est-ce que je peux encore faire? Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai tout en main pour pouvoir m'inscrire? Il y a énormément de questions au mois de juillet de la part de ces étudiants-là, en fait.
Ces inscriptions sont ouvertes jusque quand?
Alors, on ouvre le serveur, on ouvrira sans doute au plus tard le 6 juillet, hein, puisque les éléments qui vont nous manquer, en dehors des dernières choses qu'on est en train de travailler sur l'application informatique, c'est d'avoir connaissance du montant des droits diplômes et du montant de la cotisation sécurité sociale pour l'année 2012-2013, qui nous est communiqué assez tardivement par le ministère. Et donc on attend ces informations en général pour lancer les opérations d'inscription. C'était déjà le cas les années précédentes. Donc dès qu'on a ces informations, on ouvre le serveur hein, et on s'est fixé la date du 6 juillet, ce qui devrait être la date la plus tardive, entre guillemets. Si on a ces informations avant, on ouvrira le serveur avant le 6 juillet.
Au niveau des montants des inscriptions, bon là vous avez parlé... on va dire l'aspect couverture sociale, oui. Sinon le montant de l'inscription propre à l'Université Lille.
Alors c'est un montant qui évolue tous les ans, hein. Encore une fois le ministère fait de savants calculs en liaison avec Bercy pour déterminer le montant, le taux d'augmentation on va dire de ces droits d'inscription donc qui évolue de quelques euros par an on va dire hein, donc avec des droits qui sont différenciés en fonction du niveau d'études hein, on a des niveaux différents entre la licence, le master, le doctorat, les écoles, le droit pour le diplôme d'ingénieur hein, donc on a des droits assez différents en termes de diplôme lui-même. Et puis le reste, la cotisation sécurité sociale évolue aussi d'une année à l'autre de quelques euros. Bon, il y a quelques années où Il y a une pause, entre guillemets, sur le montant. Mais là aussi, il y a 2 ou 3 euros tous les ans. Donc là, on est aux alentours d'un petit peu plus de 200 euros pour la cotisation sécurité sociale. Et les droits diplôme, ça va de 180 euros pour un diplôme principal jusqu'à un peu plus de 500 euros pour le droit en école d'ingénieur, par exemple.
On n'est pas encore au Canada.
Non. Non, non, on n'y est pas encore. On est toujours sur cette logique de participation, on va dire, aux frais de formation, plus qu'un vrai droit d'inscription.
Bon, c'est clair qu'on est sur une notion politique d'engagement de l'État sur l'avenir, son avenir à la limite, puisque les jeunes, c'est quand même l'avenir, oui. A priori. Hein. En tout cas, pour l'instant, on leur fait encore un peu confiance.
Tout à fait.
Bon, alors, donc on a parlé de cette inscription. Peut-être qu'on peut recommander aux personnes qui s'inscrivent de bien lire cette page de présentation de tous les éléments à fournir avant de commencer à écrire.
Tout à fait. Donc on a commencé à faire de l'information, notamment à destination des étudiants qui vont se réinscrire, puisque là on est en fin d'année universitaire. La session d'examen du semestre pair est terminée, en tout cas la session principale. Et donc, on a profité des dernières parutions, notamment de l'Illico, hein, donc version étudiant, pour déjà diffuser un certain nombre d'informations, notamment sur le calendrier, puisqu'on a fixé un calendrier de saisie des dossiers. J'insiste bien sur le mot de saisie. Parce qu'on a pas mal de soucis déjà l'année dernière pour faire comprendre aux étudiants que il faut pas avoir tous les documents avant de commencer la saisie. Il ne faut pas attendre toutes ces étapes-là avant de faire la saisie du dossier, hein, même si la situation n'est pas complètement figée. Je pense notamment aux étudiants qui sont encore à la recherche ou qui seront encore à la recherche à la rentrée d'un contrat d'apprentissage, par exemple, qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir la signature de ce contrat pour réaliser la saisie du dossier. Donc ça, c'est très très important pour nous. Après, on leur laisse un délai. Il n'y a pas de date butoir, entre guillemets, fixée pour le retour des pièces complémentaires qui vont nous permettre de valider définitivement le dossier de l'étudiant. Le plus tôt étant le mieux, bien évidemment, puisque plus ils fourniront les pièces rapidement et plus l'inscription sera validée tôt, plus ils auront leur carte d'étudiant et leur certificat d'inscription rapidement.
On va quand même donner des grandes périodes. Donc le 6 juillet, on l'a dit, c'est pour
l'ouverture. Oui.
Hein. Mmh. Mais après, selon les
niveaux d'études,
par exemple, licence 1, c'est jusqu'au 16 septembre.
Oui.
Licence 2 et 3, jusqu'au 23 septembre. Pour les masters 1 et 2, jusqu'au 14 octobre. Et pour doctorat, c'est jusqu'au 16 décembre.
Alors j'ajoute un petit peu à ce que vous venez de dire, hein, donc, que la date limite du 14 octobre est également fixée pour les étudiants qui sont en école d'ingénieur. Hein, donc on les a un tout petit peu oubliés dans la première communication. Mmh. Hein, je profite de l'émission pour le rappeler. Donc voilà, effectivement, il y a des dates différentes, hein, sur la saisie des dossiers d'inscription. Alors en licence 1, c'est vrai que c'est très tôt, y compris pour les réinscriptions. Mais c'est vrai qu'on a besoin pour des questions d'organisation, de planning, etc., puisque là, on est sur des effectifs d'étudiants importants. On a besoin de connaître assez tôt, effectivement, le nombre d'étudiants qui va vouloir s'inscrire ou qui est en cours d'inscription à l'université, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que ces dates sont relativement placées tôt. Mais encore une fois, il ne s'agit que de saisie des éléments du dossier.
Certains étudiants candidatent, on va dire, pour être inscrits sur plusieurs universités, plusieurs formations. Ça existe, c'est possible, hein.
Alors, oui, ça existe, notamment pour les étudiants qui sont candidats à une entrée dans des filières à effectifs contingentés. Hein, je pense notamment aux licences professionnelles et au Master 2, hein, mais ce ne sont pas les seuls, je cite les deux principales. Effectivement, étant effectif contingenté, l'étudiant va très souvent avoir la démarche de candidater dans plusieurs établissements. Hein. Donc, alors après, il y a des démarches un peu différentes selon que l'étudiant est un étudiant avec des diplômes français ou qui est déjà dans un cursus français, ou si c'est un étudiant qui a commencé un cursus à l'étranger, donc qui va nous présenter des diplômes étrangers. Hein. Donc ceux-là candidatent beaucoup plus tôt que les autres, hein, donc par le biais de la validation d'études. Hein, donc il y a un dossier spécifique qui est à constituer donc déjà depuis début janvier dans notre établissement, mais c'est le cas dans la plupart des autres également. et avec des procédures un peu différentes selon le niveau dans lequel l'étudiant veut rentrer. Je ne vais pas donner le détail à l'antenne. Mais en tout cas, les démarches doivent commencer bien en amont de l'opération d'inscription en elle-même. Et lorsqu'il va vouloir s'inscrire, on va notamment identifier cet étudiant étranger pour savoir s'il a bien fait toutes ses démarches et qu'il a bien obtenu une validation d'études pour notre établissement.
Alors supposons qu'un étudiant soit inscrit à trois formations, trois universités différentes. Est-ce qu'après il fait un choix l'une ou l'autre? Est-ce qu'il paye déjà les droits avant d'être effectivement inscrit?
Non. Le paiement des droits se fait vraiment au moment de l'inscription et en général, l'étudiant fait de lui-même un choix pour l'établissement. S'il a eu plusieurs acceptations, il va à un moment donné, alors soit choisir le premier parce qu'il est pressé d'avoir une réponse, parce que notamment si c'est un étudiant étranger, il va avoir des tas de démarches à faire par derrière, notamment pour l'obtention du visa, et que ce sont des opérations longues, difficiles, selon les pays, c'est plus ou moins compliqué. Et donc, à un moment donné, il va devoir faire un choix sur son vœu d'études, en fait.
Tout à l'heure, on a parlé des dates butoirs, donc 16 septembre, 23 septembre, 14 octobre et 16 décembre. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à ces dates-là, tout est ouvert et donc rien n'est confirmé?
Alors, il y a quand même des délais, hein, notamment pour la validation d'études. On a des délais qui sont quand même fixés normalement au 30 avril pour les validations d'études pour les étudiants d'origine étrangère. Bon, on fait en général un certain nombre de dérogations après cette date pour l'intégration des étudiants. Mais c'est vrai qu'après le mois de juin, si ces démarches-là ne sont pas faites avant début juillet, il y a très très peu de chances que l'étudiant puisse s'inscrire dans notre établissement.
D'accord. Est-ce qu'il y a des problèmes auxquels on n'a pas pensé là et qui seraient peut-être utiles de prévoir? Par exemple, pour les parents, comment ça fonctionne? La relation étudiant-parent, d'une façon normale, on va dire, est-ce que vous sentez encore une grande présence des parents, voire une dépendance par rapport aux étudiants liés à leur famille?
Alors, pour ce qui concerne le processus d'inscription, oui, les parents sont toujours très très présents dans le circuit. On l'a constaté encore l'année dernière lors de l'accueil des primo-inscrits au mois de juillet et au mois de septembre. On a beaucoup d'étudiants qui viennent faire seuls les démarches d'inscription de leur enfant, de leur fille ou de leur fils, pour tout un tas de raisons. Donc les parents ne sont pas forcément très très à l'aise non plus avec ce processus-là. Et on s'interroge sur cette inscription en ligne. Ça fait partie de nos interrogations. On se demande effectivement si les parents vont toujours être missionnés par leurs enfants pour effectuer cette inscription à leur place, en fait. Bon, ça sera plus difficile à mesurer, forcément, mais on le saura forcément, ne serait-ce que par les appels téléphoniques. Ce sont les parents qui font la démarche et non pas l'étudiant.
Ça peut avoir un côté positif que les parents s'impliquent.
Oui, parce qu'ils sont plus conscients des délais, des conséquences de la non-inscription et de faire les choses en retard. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Ça prend toujours plus de temps, finalement, de s'y prendre trop tard. Donc voilà, il y a des choses qui sont rattrapables, mais ça va être plus compliqué, hein, puisque après, on est dans un processus éventuellement, c'est pas systématique, hein, mais d'inscription tardive. Voilà, avec des allers-retours éventuellement avec certaines formations qui vont vouloir regarder d'où vient cet étudiant là, qui est en retard, notamment si c'est un nouvel étudiant qui s'inscrit pour la première fois chez nous, ça peut être compliqué. Donc effectivement, que les parents s'impliquent, c'est pas mal non plus, quoi. Enfin, je veux dire, ça évite certaines catastrophes.
C'est parfois eux qui payent aussi, non?
Oui, tout à fait. Et ça pose d'ailleurs des soucis parce que quand c'est le parent qui paye l'inscription et que pour une raison ou pour une autre, l'inscription doit être annulée, reportée, etc., ou qu'il y a des opérations de remboursement diverses qui sont prévues parce que il peut y avoir certaines erreurs dans le traitement des dossiers et qui amènent à rembourser tout ou partie de ce qui a été payé, eh bien c'est l'étudiant qu'on rembourse et non pas les parents. Donc,
il est content.
Voilà. Donc l'étudiant est content, les parents le sont moins.
Bon, mais ils ne le savent pas.
Ils finissent par le savoir en général avec les enfants.
Bon, ça va. Voilà. Donc, on a expliqué un petit peu les droits d'entrée, comment ça se passe. On a dit qu'il y avait des dates butoirs. Est-ce que l'Université Lille-1 peut accueillir tous les étudiants qui ont les diplômes nécessaires, hein, les conditions de base nécessaires Et est-ce qu'elle est prête à inscrire toutes ces personnes qui s'adresseront à elle ?
Alors, il y a des situations où il y a, bien sûr, l'inscription à l'université reste un droit, avec quelques bémols, entre guillemets, puisque les filières à effectifs limités dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, il y a des choix à faire et tous les étudiants ne peuvent pas y accéder, même avec le diplôme requis. Il y a aussi des choses que l'on regarde de près sans s'opposer à l'inscription de l'unité d'étudiant, puisqu'on n'a légalement pas le droit de le faire. On a une attention particulière, par exemple, pour les étudiants qui viennent de valider un bac technologique ou un bac professionnel et pour lesquels le parcours à l'université s'annonce difficile. Donc, il y a un travail qui est effectué notamment par les conseillers d'orientation présents au niveau du service universitaire d'accueil, d'information et d'orientation, le SUAIO, qui vont recevoir ces étudiants-là, avoir un entretien avec eux pour tester leur motivation, voir un peu quel est leur projet derrière ce choix d'études et les mettre en garde sur les difficultés importantes qu'ils vont rencontrer s'ils persistent dans leur choix de s'inscrire à l'université. Hein, donc voilà, donc ça, on essaye de le maintenir aussi, même si on passe avec de la procédure dématérialisée. On va demander aux étudiants quand même de se présenter au SUAIO, de prendre rendez-vous, et on va demander donc dans les pièces du dossier à avoir confirmation hein, sous forme d'un document qui sera conçu par l'équipe du SUAIO, que cet étudiant a bien eu cet entretien et qu'il a bien été mis au courant effectivement de ses difficultés. Donc on ne va pas s'opposer à son inscription, mais voilà, on y regarde de près et on lui donne des conseils aussi d'orientation, parce que notamment quand ça se passe au mois de juillet, il y a bien souvent encore d'autres possibilités d'inscription pour lui dans d'autres établissements ou d'autres filières que celles de l'université qui peuvent tout à fait lui convenir. Donc c'est aussi là, le SUAIO joue pleinement son rôle de conseil d'orientation.
Donc Sylviane Nevelin, vous êtes responsable du service études et scolarité à Lille 1. Quand les gens vous envoient leur inscription par Internet, qui est-ce qui reçoit ces demandes et comment elles sont traitées, par quelle équipe ?
Alors, la saisie se fait en ligne, effectivement. Donc la suite de la procédure passe quand même par une opération d'envoi de pièces et de copie du dossier, on va dire une copie en tout cas de ce qui a été saisi par l'étudiant. Tout ça est envoyé par voie postale par l'étudiant à l'adresse qui lui est indiquée en fin de dossier, donc qu'il a sorti. La liste des pièces qui lui a été demandée également, qui est calée sur l'ensemble des éléments qu'il a pu saisir. Donc c'est totalement personnalisé, cette liste de pièces. Et donc il va devoir envoyer le tout à l'adresse qui lui est indiquée. Donc soit l'adresse la plus courante où on va traiter l'ensemble, enfin la quasi-totalité des dossiers. Et il y a un certain nombre de dossiers aussi qui vont être adressés au sud-est, hein, puisque on n'oublie pas la population relativement importante de personnes qui sont en reprise d'études, en formation continue. Et donc ces dossiers-là vont être d'abord traités par le sud-est, avant de faire l'objet d'une validation d'études, hein, puisque là aussi on a besoin de contrôler la situation réelle de ces personnes.
Donc tout à l'heure on a parlé des dates hein, butoirs de ces inscriptions. Est-ce que ces dates correspondent à des rentrées différées, on va dire, selon les formations ?
Non, ça n'a pas de lien direct avec le calendrier de rentrée des étudiants, puisque là, pour la plupart des formations, on est sur des rentrées entre le 3 septembre, on va dire, pour les licences, hein, et notamment les licences 1, on sera calé sur la première semaine de septembre pour la pré-rentrée, hein, donc les organisations, enfin l'accueil des étudiants à l'université, et puis la plupart des filières, à part peut-être certains Master 2, et puis bon, bien sûr les doctorats hein, qui ont un fonctionnement hein, beaucoup très très différent, hein, où là il n'y a pas de cours en tant que tel, où là les choses peuvent être plus décalées, mais sinon pour la plupart le calendrier de rentrée est calé avant le 1er octobre, hein, donc non, c'est pas lié à ça.
Donc là on est encore en période de cours ou pas ?
Non, il n'y a plus de cours.
Il n'y a
On
plus de
est...
cours.
Non, non.
Donc, il faut penser à s'inscrire et préparer son
Tout à
dossier.
fait. Pour ceux qui ont validé dès le premier tour, j'ai envie de dire, à la première session, leurs examens, vous pouvez y penser dès le mois de juillet. Ce qui est fait n'est plus à faire.
Mais oui.
Hein,
Après, on
vous
peut partir en
partez
vacances.
tranquille en vacances sans vous préoccuper trop de ces choses-là. Voilà, on vous invite effectivement à faire les démarches le plus tôt possible. Ceci dit, il y a juste une chose qu'il faut regarder, c'est que il faut attendre quand même que vos résultats de l'année soient saisis par votre secrétaire pédagogique en fin d'année, après la réunion des jurys, hein, puisque l'application informatique fonctionne pour la réinscription à partir des résultats de l'année précédente. C'est ça qui va déterminer si vous devez vous réinscrire dans le même niveau d'études parce que vous n'avez pas validé la totalité de vos crédits pour l'année qui est en train de se terminer, ou si vous pouvez d'emblée vous inscrire dans l'année supérieure parce que voilà, il y a plus rien qui traîne sur l'année en cours.
Bon alors, même inscrit, enfin du moins pré-inscrit, même en vacances, il vaut mieux surveiller sa boîte aux lettres et sa boîte internet.
Tout à fait, puisque le serveur, hein, ça va être pour ceux qui avaient l'habitude de se réinscrire les années précédentes par l'application en ligne. Jusqu'à présent, le serveur était fermé fin juillet et rouvrait dans les derniers jours d'août. Donc là, comme on est sur une généralisation, on va dire, du dispositif sur l'ensemble des étudiants, le serveur ouvrira le 6 et restera ouvert tout le mois d'août. Alors, à la nuance près que vous pouvez, enfin, la saisie des dossiers pourra se faire pendant toute cette période, mais qu'en revanche, les dossiers, il n'y aura pas de traitement de dossiers papier renvoyés par la poste après cette saisie pendant le mois d'août, hein, puisque nous prenons quelques vacances dans les services, hein, et que nous rentrons dans les derniers jours d'août pour travailler à partir des dossiers qui auront été transmis pendant les vacances, justement.
Voilà, bien merci Sylviane Levillain. Pour les étudiants qui vont en vacances, tant mieux. Pour ceux qui travaillent, j'allais dire tant pis. Profitez-en pour respirer quand même avant vos études qui vous attendent à Lille. Merci beaucoup.
Merci.